ça va faire des histoires.
Oh, ça va faire des histoires.
Ça va faire des histoires.
Oh, ça va faire des histoires.
Ça va faire des histoires.
Ça va faire des histoires. Une émission proposée par le conteur Michel Lidou. Des histoires, des contes, des reportages, des informations. Bref, enfin tout ce qu'il faut savoir quand on aime les histoires.
Amis des histoires, bonsoir. Et bienvenue dans cette deuxième émission consacrée à l'art du conte. Pour cette deuxième émission, je me suis rendu au 30e festival du conte de Fresquien et Co. dans la Seine-Maritime, en Normandie. Festival qui s'est déroulé du 28 septembre au 12 octobre 2019. Et là-bas, j'ai rencontré mon ami, le conteur Philippe Louvet.
Alors, bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors, écoute... On va pas tromper le monde, Philippe, je vais pas te vouvoyer, parce que je crois qu'on se connaît depuis suffisamment longtemps pour que je puisse me permettre de tutoyer.
Ça me ferait drôle même si on devait se vouvoyer.
Écoute, Philippe, d'abord, la première chose que j'aimerais te demander, c'est comment est-ce que tu es tombé dans la marmite du conte ?
Ça remontera très loin. D'abord, la première chose... C'est dans ma petite enfance, j'avais un oncle qui était conteur, enfin qui comptait. Il n'était pas conteur professionnel, mais souvent il nous racontait des histoires, qu'il inventait lui-même. Et puis après, ce qui a été un grand moment pour moi, c'est un peu après, 2 ans environ, après la naissance de ma première petite fille. J'avais raconté le petit Japeron rouge une fois. Et à partir de là, à chaque fois que je la voyais, c'est-à-dire à peu près une fois par semaine, tous les week-ends, elle me demandait « Papy, raconte-moi une histoire, raconte-moi une histoire. » Et puis une histoire en appelait une autre. Ce qui fait que je lui racontais à peu près tous les contes traditionnels que je connais. Connaissait le petit Chaperon rouge, le petit poussé, Blanche-Neige, Cendrillon, Barbe bleue et bien d'autres. Et arrivé un moment, j'en avais plus d'autres à lui raconter. Et c'est là que j'ai commencé à en inventer. J'en ai inventé beaucoup dont je ne me souviens plus du tout, mais il y en a deux qui sont maintenant à mon répertoire. Depuis ma petite fille a maintenant 25 ans, donc c'est des contes qui remontent quand même à loin. Et puis alors, après, un jour par hasard, j'étais en vacances dans le Morbihan. J'étais sur le point d'entrer dans un cairn. Et il y a une femme qui en sortait et qui me dit, une femme que je ne connaissais pas, qui me dit comme ça, « Ce soir, je vais au Festival du Conte de Baden. » Je dis, « Ah bon ? Un Festival du Conte à Baden ?» Je ne savais pas, mais je dis ça m'intéresse. Bon, elle me donne quelques détails, et je suis allé. Et alors là, j'ai découvert ce que c'était que le conte professionnel.
Tu étais en vacances dans le Morbihan.
Dans le Morbihan, d'accord. Oui. J'étais à Auray. À Auray, c'était absolument pas annoncé, ce festival de Baden. Et donc, je suis allé au festival. Et depuis, j'y retourne tous les ans. Et ça fait 8 ans. Et c'est là qu'on s'est connus, d'ailleurs.
Si on devait définir ton style, ta spécificité, ton univers, comment tu me décrirais ça?
Disons que je suis plus dans le conte facétieux. Mais, surtout, je suis dans le conte celtique. J'ai découvert les contes irlandais. Et vraiment, c'est d'ailleurs mon spectacle, là, mon tout premier spectacle, en fait, hein, que tu as vu hier. Et là, je suis dedans. Hein. L'Irlande. Bon, j'ai aussi pas mal de contes bretons.
Tu es d'origine bretonne?
Pas du tout.
Non.
Mais je suis marié à une bretonne.
Ah oui, d'accord. Hein.
Bah, c'est grâce à elle que j'ai découvert la Bretagne. J'ai découvert la Bretagne dans les années 70, en 69 exactement. Et bah, c'était en pleine renaissance de la musique bretonne, avec Alan Stivell, Gilles Serva. Et j'ai adoré cette musique-là. Vraiment, ça me parlait. Et à partir de là, j'ai découvert la musique irlandaise aussi, qui est très riche. C'est un univers qui me convient, quoi.
Tu as été jusqu'en Irlande quelquefois
Oui, 4 fois en Irlande.
4 fois en Irlande.
4 fois.
Pour des vacances.
Des vacances, oui. Il y a quelques années, j'ai trouvé en Irlande un livre, bon, écrit en anglais bien sûr, de contes d'Irlande, un livre de Joseph Jacobs, que pratiquement personne ne connaît en France, et que j'ai redécouvert après sur Internet. Hein. Et vraiment, il y a des choses formidables, des contes. Mon spectacle est en grande partie inspiré de contes de Joseph Jacobs.
Ton spectacle, donc, on a eu la primeur et la chance de voir hier soir. Au fait, ton spectacle, est-ce qu'il a un titre?
Ça s'appelle Contes d'Irlande.
Contes d'Irlande, simplement. Voilà. Oui. Donc, Contes d'Irlande avec Philippe Louvet. Et c'était la première, je crois.
C'était la toute première, oui.
Et alors, ça s'est bien passé?
Oh, mieux que j'aurais pu rêver. Disons que, au bout de 5 minutes, je me suis senti étonnamment à l'aise. Il faut dire que c'était un public amateur de contes qui réagissait, mais alors vraiment, très facilement, très bien.
Oui, je crois que tu étais programmé dans le cadre du festival de Fréquienne, c'est ça.
C'est ça, ouais. Festival de Fréquienne Echo, que je suis depuis 4 ou 5 ans. Et bon, j'ai eu la chance cette année d'être programmé pour mon spectacle.
Alors, moi, je te propose, là, maintenant, qu'on écoute un petit bout, un extrait du spectacle.
Plaisir,
parce que moi, j'étais là. Et puis, ma foi, j'ai pris quelques empreintes sonores, comme on dit. Donc, je te propose d'écouter un petit extrait.
Mmh. C'est une histoire horrible. C'est une histoire atroce. C'est une histoire à faire peur aux enfants. Mais vous savez bien que les enfants adorent avoir peur. Une fois, au milieu d'un champ de navets, un vieil homme, une vieille femme et une petite fille qui habitaient une vieille baraque faite en fan de navets. Hein? Ah oui, j'allais oublier. Il y avait aussi un petit chien qui s'appelait Turpi. Voyons un peu, qu'est-ce qu'il pourrait me faire le chien? Qui, là? Quelqu'un est volontaire pour faire le chien? Allez, qui fait le chien? Oh, plus fort, plus fort. Ouais, tiens. Ouais, bon, voilà. Mais voilà que la nuit venue, les Oupalaks sont arrivés. Ils étaient affreux et ils chantaient. Oupalak, Oupalak, on va casser la baraque. Oupalak, Oupalak, on va casser le grand-père. On va bouffer la grand-mère. Oupalak, Oupalak, on met la fille dans un sac. Aussitôt, le chien Turpi a fait son travail de chien. Il a lancé l'alerte. Les Oupalak ont fichu le camp. Mais le vieil homme réveillé a dit: mais qu'est-ce qu'il a aboyé, ce chien? Je dois me lever de bonne heure, moi, pour cultiver mon champ de navet. Demain matin, je couperai la queue du chien. Et le lendemain matin, le vieil homme a fait comme il avait dit, il a coupé la queue du chien. Tchac. Mais voilà que la nuit venue, les Oupalak sont revenus. Ils étaient horribles. Et ils chantaient.
Oupalak, Oupalak, on va casser la baraque. Oupalak, Oupalak, on va bouffer le grand-père. On va bouffer la grand-mère. Oupalak, Oupalak, on met la vie dans un sac.
Le chien Turpi. Les Oupalak, bien sûr, se sont sauvés. Mais le vieil homme.
C'est mieux en mieux.
Le vieil homme réveillé. Mais qu'est-ce qu'il a encore à aboyer, ce chien? Je dois me lever de bonne heure pour cultiver mes navets, moi. Demain matin, je couperai les pattes du chien. Et le lendemain matin, le vieil homme a fait comme il avait dit, il a coupé les pattes du chien. Tchop, tchop, tchop. Mais, je vous laisse deviner, la nuit venue, les Oupalak sont revenus. Ils étaient monstrueux. Et ils chantaient.
Oupalak, Oupalak, on va casser la baraque. Oupalak, Oupalak, on va bouffer le grand-père. On va bouffer la grand-mère. Oupalak, Oupalak, on va la vie dans un sac.
Le chien Turpi. Les Oupalak, bien sûr, se sont sauvés. Et le vieil homme réveillé. Mais qu'est-ce qu'il a encore à aboyer, ce chien? Alors c'est toutes les nuits qu'il aboie maintenant. Ah, mais moi, je dois me lever de bonne heure pour cultiver mes navets. Demain matin, je couperai la tête du chien. Et le lendemain matin, le vieil homme a fait comme il avait dit. Il a coupé la tête du chien. Tchao. Mais la nuit est venue. Les Oupalak sont revenus. Ils étaient de pire en pire. Et ils chantaient.
Oupalak, Oupalak, on va casser la baraque. Oupalak, Oupalak, on va bouffer le grand-père. On va bouffer la grand-mère. Oupalak, Oupalak, on met la vie dans un sac.
Le chien Turpi n'a pas pu aboyer.
Ils se sont pas fait avoir.
Le vieil homme a continué à dormir. Mais les Oupalak s'en sont donnés à cœur joie. Ils ont saccagé le champ d'avis. Ils ont renversé la cabane en femme de navet. Ils ont dévoré avec dents le grand-père. T'en veux un bout? Et la grand-mère. Oh, ils ont pris la petite fille et ils l'ont mise
dans le sac.
Ils ont fermé le sac, ils l'ont chargé sur leurs épaules et ils sont rentrés chez eux. Chez eux, c'était une caverne noire, noire, et profonde, profonde. Là, ils ont suspendu le sac à un crochet au plafond. Et ils sont allés chercher des bâtons. Et ils ont commencé à taper sur le sac avec leurs bâtons. La petite fille pleurait, pleurait, pleurait. Et après, alors là c'est pas faux. Ils ont descendu le sac. Ils ont ouvert, ils lui ont laissé passer que la tête. Et alors là, je sais pas, est-ce qu'il y a des personnes sensibles? Il n'y a pas des enfants, non, il n'y a pas d'enfants. Non. Parce que attention, hein, s'il y a des enfants, je précise à chaque fois, les enfants, vous savez, ça, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas. Non, ça va, vous êtes tous adultes, personne ne va se faire un malaise. Non, je peux y aller. Alors bon, hein, je vous aurais prévenu. Ils lui ont... Ils lui ont tiré la langue. Ben, la petite fille pleurait, pleurait, pleurait. Et après, ils ont accroché le sac. Et ils sont partis se coucher parce que le jour se levait. Et que, comme chacun sait, les houpalaques dorment le jour. Pendant ce temps, le chien turpie. Sans tête, sans pattes, sans queue, avait quand même réussi à ramper. Jusqu'à la maison la plus proche, qui n'était pourtant pas si proche. Arrivé là, arrivé devant la maison.
Et Philippe,
Ah oui, on
veut te décaler un petit peu.
Excuse-moi. Oui, oui, c'est la suite. Alors c'est pour ça. Il n'avait pas de tête. Il n'a pas pu aboyer. Il n'avait pas de pattes. Il n'a pas pu gratter à la porte. Il n'avait pas de queue. Bon. Il a pété aussi fort qu'il a pu. Alors, pourquoi vous voulez me faire comprendre? Quelqu'un à l'intérieur l'a entendu. Un homme est venu ouvrir. Quand il a vu l'état du chien, il a tout de suite compris qu'il se passait quelque chose de grave. Alors, il est allé chercher son chien. Un gros chien. Un très gros chien. Un très, très gros chien. Et ensemble... ils ont suivi le chien Turpie. Le chien Turpie, je précise, qui, bien que n'ayant plus de tête, avait quand même gardé tout son flair. Et les a emmenés directement à la caverne des Houpalaques. Là, l'homme a décroché le sac. Il a sorti la petite fille qui pleurait, qui pleurait, qui pleurait toujours. Qui a quand même eu un petit sourire. En retrouvant son chien. Enfin, ce qu'il en restait. Et il a mis dans le sac, à la place, son chien, son gros chien, son très gros, très très gros chien. Il l'a raccroché. Et quand la nuit est venue, et oui, il est reparti avec la petite fille qui tenait ça dans ses bras. Son chien, Turpie, hein, qui s'était déjà donné pas mal de mal. Et bon, quand les Houpalaques se sont réveillés la nuit venue et qu'ils ont voulu aller donner des coups de bâton sur le sac, c'est le chien, c'est le très gros chien qui est sorti et qui a dévoré tous les Houpalaques. Et c'est pour ça, mesdames et messieurs, qu'il n'y a plus un seul Houpalaque dans toute l'Irlande. On me demande parfois, je ne sais pas, ce qui est advenu du chien. Oui, vous voulez. Eh bien, quand la petite fille l'a ramassé, quand elle l'a pris dans ses bras, quand elle l'a serré contre son cœur. Le cœur poussé. Et puis les pattes. Et puis la tête. C'est fou ce que ça peut faire un peu d'amour.
Et voilà, ben, en effet, il y avait quand même une belle ambiance.
Ah oui.
Les Oupalak, c'est ça, hein?
Les Oupalak. Alors, le mot, c'est moi qui l'ai inventé.
Ah bon?
Dans le texte original, il s'appelait les Obayos. Mais bon, en français, ça ne sonne pas tellement bien. J'ai préféré remplacer ça par Oupalak, qui sonne bien, qui a l'avantage de rimer avec Barak et avec Sac, hein. J'ai lancé ça comme ça. J'ai fait quelques petites modifications. Le retour du chien Turpi, par exemple, c'est moi qui l'ai inventé. Ça n'était pas dans le conte original.
Mais... Ah, c'est amusant parce que c'est effrayant et en même temps, on a quand même.
Ah, c'est jouissif. Hein,
oui, voilà. On a quand même un retour, un final. Qui arrange tout avec cette belle phrase qui dit l'amour.
C'est fou ce que ça peut faire, un peu d'amour.
Voilà. Et avec après ce premier spectacle, est-ce que maintenant tu as des projets, des nouveaux projets?
Des projets, disons que ce spectacle-là, maintenant que j'ai vu comment il marche, j'aimerais bien le refaire. Je vais chercher des programmateurs pour le prendre.
Alors, on fait un appel. Si vous êtes programmateur, allez-y, vous ne le regretterez pas. Franchement, moi j'y étais. On s'est amusé, c'était fantastique. Et tu disais que tu vas continuer à présenter, à proposer ce spectacle.
Oui, bien sûr. Hein, si je peux le proposer, si quelqu'un veut bien me le prendre, je suis prêt. Et mon musicien aussi, d'ailleurs.
Ah oui, Ghislain, tu étais accompagné d'un musicien. Il s'appelle Ghislain, c'est
Ghislain,
ça?
Ghislain Cavelier.
Oui, alors ce Ghislain, ça fait longtemps que tu travailles avec lui?
Pas du tout. Quand j'ai eu écrit mon texte là, du spectacle, je me suis dit ce serait bien d'avoir une musique là-dessus. Une musique celtique, bien sûr, une musique irlandaise. Et j'ai une copine qui est conteuse aussi, qui s'appelle Anne, et qui est musicienne, qui joue de la harpe, qui joue du violon, qui joue de l'accordéon et quelques autres instruments, et qui chante très bien en plus. Je l'ai contactée pour lui demander si elle accepterait de jouer avec moi. Elle m'a dit « Ah, ce sera avec plaisir, mais à ces dates-là, je ne serai pas disponible. » Elle dit « Mais j'ai un copain avec qui je fais de la musique qui m'a dit que lui aussi, il aimerait bien accompagner un conteur. Si tu veux, je te le présente. » Alors, elle l'a contacté, elle lui a demandé son avis. Bon. Et on s'est rencontrés et bon, on a travaillé ensemble. On s'est tout de suite très bien entendu tous les deux. Et bon, on a donc réussi à travailler assez rapidement, quoi. Comme il y avait une bonne entente, je lui ai proposé des musiques.
Voilà, alors à propos de musique d'abord. Je crois qu'il a... Enfin, là, hier soir, j'ai vu, il a utilisé plusieurs instruments.
Ah oui.
Il y avait de la guitare, je crois.
Des guitares, banjo, dulcimer, tin whistle, petit flutio irlandais. Et en plus, il a joué un peu de bran.
Ben, écoute, je te propose, là, on va écouter un morceau joué par Ghislain. Voilà. Et on va reprendre la conversation après.
D'accord. Thank you.
Eh bien voilà, c'était Ghislain, tu m'as dit ?
Ghislain Cavelier,
qui n'est pas musicien professionnel.
Qui est un musicien amateur, qui est aussi dessinateur. Il va faire prochainement une exposition de ses œuvres.
Moi, j'ai remarqué qu'il y avait une super complicité entre vous deux.
Vraiment, ça s'est fait tout de suite, quoi. Enfin, disons que on a été très... On s'entendait bien, quoi. Déjà. Et alors ça s'est fait pendant la résidence.
Tu as donc eu une création résidence été proposée par le festival.
On a été 3 jours en résidence.
Oui.
Et le deuxième jour, on s'est rendu compte que on faisait tous les deux la même histoire, mais chacun de notre côté. Et on s'est dit non, il faut que on communique tous les deux l'un avec l'autre. Et on s'est attaché à ça. Et je crois que c'est ce qui a fait, ça a fait beaucoup aussi, ça, cette complicité qu'il y avait entre nous deux dans le spectacle, où on s'envoyait un peu des vannes de temps en temps même. Ça a fait beaucoup dans le coulé du spectacle.
Ouais, on a tous remarqué ça d'ailleurs. Mmh. Et je me suis même dit, enfin, c'est un avis personnel, que quand ce spectacle, vous allez le tourner de plus en plus souvent et vous allez être de plus en plus complices. Et je pense que si on se donne rendez-vous l'année prochaine, on aura encore plus de complicité.
C'est sûr, parce que là, ça y est, quoi, on est dedans. Hein. De toute façon, au bout de 5 minutes, j'ai senti que ça allait aller, hein, que... Vraiment, je pouvais me lâcher que...
Oh ben le public était conquis. La salle était pleine.
Et c'est un public habitué au conte. Hein, le public d'un festival de conte. La moitié de la salle, peut-être, c'était des copains. Hein.
Alors, si tu veux, je te propose, donc, on va écouter encore un petit extrait du spectacle.
Cette petite musique qui nous accompagne depuis le début, c'est une très vieille chanson irlandaise. Je crois qu'elle a plus de 600 ans. Il y a 600 ans, on a écrit des paroles sur cette chanson, des paroles en gaélique. Et ces paroles ont été traduites en anglais il y a une centaine d'années. Et pour vous ce soir, nous en avons fait une version française que vous allez peut-être pouvoir chanter avec nous. Tu leur apprends le refrain
comment tu la vis ta vie, Kunladi, comment tu la vis ta vie, Kunladi, comment tu la vis, comme je veux dit Kunla.
Allez, à vous maintenant.
Kunladi, comment tu la vis ta vie, Kunladi, comment tu la vis ta vie, Kunladi, comment tu la vis, comme je veux dit Kunla.
Bon, la chanson s'appelle Kunla. Vous vous demandez peut-être qui est Kunla. Bah ça, apparemment, personne n'en sait trop rien. Parmi les idées qui courent, Kunla, ça pourrait être quelqu'un du petit monde, un lutin, les brechen, une fée. Et ça, c'est une première vision du personnage. Et d'autres voient plutôt comme un petit malin ou une petite maligne qui essaierait de se faire passer pour lutin ou un farfadé, pour rapprocher l'intimité de la personne qu'il ou elle souhaite séduire. Voilà. On y va ?
Qui c'est donc qui claque dans les flaques le soir ? Qui c'est donc qui claque dans les flaques le soir ? Qui c'est donc qui claque dans les flaques le soir ? Ce doit être Kunla. Qui c'est donc qui toque au carreau le soir ? Qui c'est donc qui toque au carreau le soir ? Qui c'est donc qui toque au carreau le soir ? Ce doit être Kunla.
la vie, comment tu la vis, la vie, cool la vie, comment tu la vis, la vie, cool la vie, comment tu la vis, la vie, comme je le dis. Qui sait donc qui tire sur mes draps la nuit? Qui sait qui tire sur mes draps la nuit? Qui sait donc qui tire sur mes draps la nuit? Ce doit être Goula. Qui sait donc qui caresse mes fesses le soir? Qui sait donc qui caresse mes fesses le soir? Qui sait donc qui caresse mes fesses le soir? Ce doit être Goula.
De Michel Vitoux.
Alors Philippe, maintenant, quels sont tes projets, ton actualité?
Oh là, il y en a plusieurs. J'ai là actuellement en écriture un prochain spectacle, bon, qui ne va pas être pour tout de suite. Hein. Il est en écriture pour le moment, en recherche de documents même. Mais ça va venir. C'est un spectacle sur les Celtes. Les Celtes, ça va partir de la chute de la religion celtique, c'est-à-dire l'arrivée du christianisme en Bretagne. Alors, bon, je vais prendre une petite liberté avec l'histoire. C'est que le missionnaire qui va arriver, ce ne sera pas...
Des missionnaires qui venaient de...
qui venait du Pays de Galles, des Gallois. Et moi, ça m'arrange mieux de faire venir celui qui va arriver d'Irlande, pour de diverses raisons. En particulier parce que j'aime bien l'Irlande et la Bretagne, donc faire le lien entre... Mais en fait, l'Irlande a été christianisée historiquement après la Bretagne. Donc historiquement, ce n'est pas possible. Mais ça m'arrange comme ça. C'est un peu le droit du conteur.
Voilà, le plaisir.
Le
voilà.
Plaisir du
d'y
conteur.
D'y mettre sa propre version de l'histoire.
Voilà.
Voilà, oui, c'est ça.
Donc, il y aura d'abord ça, cette histoire de druidisme, en fait. Et il y aura un second conte qui reprendra le même thème du druidisme, mais au début du XXe siècle. Une histoire, alors là encore, une histoire qui est entièrement à moi, que j'ai complètement inventée, qui ne repose sur des traditions irlandaises et bretonnes, mais sur aucun conte précédent, quoi. Et puis, en finale, il y aura un conte plus léger, quoi. Un peu dans le genre des Oupalaks.
Si d'accord. Et j'ai cru voir aussi, puisque je suis allé chez toi, qu'il y avait une étagère avec des jolies petites marionnettes.
Petites.
Elles vont pas rester sur l'étagère, celles-là.
Petites.
Dis-moi.
Pas si petites.
Oui, bon. J'ai vu qu'il y avait des grandes aussi, en effet.
Pas si petites que ça. Hein. Oui. C'est des marionnettes qui vont faire 70 cm de haut. Et alors, l'idée, c'est. Alors, les marionnettes, il faut le dire. Pour le moment, il y en a trois qui sont faites entièrement. Les autres, c'est des têtes. Et il y en a trois, c'est le renard, la chatte et le corbeau. Et il reste le lion, le loup, le blaireau, le chien, l'ours et le rat, je crois. hein, qui ne sont pour l'instant que des têtes, mais je vais faire des corps.
Et alors, ces personnages, on va les retrouver dans les Fables de La Fontaine
Non, le roman de Renard.
Le roman de Renard.
Le roman de Renard. Et alors, l'idée, c'est de les faire manipuler par des enfants.
Ah ouais.
Je raconterai l'histoire de, arrangée à ma façon, du roman de Renard, et les enfants manipuleront les marionnettes, des marionnettes de 70 cm, hein, ce qui fait qu'ils participeront à l'histoire, quoi.
C'est un spectacle interactif.
Interactif, tout voilà. À fait.
Appel à tous les enfants qui seront dans la salle. Ou bien tu vas choisir un certain.
Je pense que ça conviendrait, ce genre de spectacle, pour une classe, par exemple.
De quel âge, à peu près?
Je dirais CE2 à CM2.
D'accord. Hein.
Parce que, bon, je fais des animations de classe dans des médiathèques.
Déjà?
Déjà, oui. Bon, okay. C'est pour le moment, c'est du conte traditionnel, mais j'aimerais bien lancer ce genre de...
Je pense que tu auras des amateurs, ouais. Hein, parce que... Quand j'ai vu déjà l'expression des marionnettes, même si je ne suis plus un enfant, j'ai encore un cœur d'enfant et j'ai tout de suite imaginé ces personnages-là.
Sinon, on ne serait pas conteur si on n'avait pas un cœur d'enfant.
Alors, Philippe, dis-moi, on ne va pas se quitter comme ça. Est-ce que... Allez, il faut que tu me racontes quand même une histoire.
It was winter. And the little bees were comfortably standing in the hive.
Et là, le compteur s'est arrêté.
Il se répète mentalement la phrase qu'il vient de prononcer.
Tiens, c'est en anglais.
Pourquoi c'est en anglais? D'habitude, c'est en français qu'il compte.
T'was winter. And the little bees were comfortably standing in the hive.
C'était l'hiver et les petites abeilles étaient confortablement installées dans leur ruche.
Oui, bon, mais qu'est-ce qui vient après?
C'est curieux ça, ça ne lui revient pas.
Sans doute. Une histoire d'abeilles et de ruches. Il se souvient pas avoir jamais conté telles histoires. Non, lui, c'est pas vraiment son style. Hein. C'est plutôt des histoires plus, si vous voulez, c'est un peu... Non, c'est pas ça. Il cherche, il fouille sa mémoire. S'il dit ça, ça doit bien venir de quelque part, enfin. Ah! C'est peut-être une formulette. Ah oui, c'est ça, ça doit être une formulette. Une formulette d'attaque. Oui! Comme par exemple, il était une fois. Ou, c'était au temps où les poules avaient des dents. Et où les éléphants prenaient le thé à 5 heures.
Oui. Mais pourquoi c'est en anglais?
Ah, oh, c'est énervant ça.
Et puis, pourquoi cette formulette qui lui revient toute seule? Ah, pas l'histoire qui vient avec. Non, vraiment. Elle sort comme ça, toute seule. Sans lui demander son avis. Et devant le public, en plus. Ça devient vraiment gênant. Et il sait plus quoi dire. Il reste là, la bouche ouverte, bras ballants. Vous voyez la situation? Pas facile, hein? Qu'est-ce que vous feriez, vous? Hein? Eh bien, le conteur, il a trouvé la solution. Il s'est réveillé.
Thank you.
Philippe, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur?
Oh ben, tout d'abord, de rester en bonne santé, parce que ça, c'est important. Et puis, ben, j'aimerais bien pouvoir rejouer ce spectacle qui a si bien marché hier soir.
Et justement, à propos de ce spectacle, alors où est-ce qu'on peut retrouver tes coordonnées, ou est-ce qu'on peut voir des extraits peut-être
du spectacle? Oui, tout le spectacle a été filmé. Hein. Si quelqu'un est intéressé, un programmateur ou une médiathèque qui souhaiterait, peut sur demande envoyer une copie de la vidéo.
On va dire avis aux médiathèques, si vous voulez faire un voyage en Irlande avec Philippe. Voilà, on peut donc avoir tes coordonnées, Philippe?
Déjà, je suis sur Facebook.
Sur Facebook, c'est Philippe Louvet.
Philippe Louvet. Et puis, je peux te donner mon adresse mail.
Oui.
Tu la connais déjà.
Oui,
toi.
Mais si tu veux bien la dire aux auditeurs.
Alors, c'est pho.louvet, L-O-U-V-E-T, tout ça en minuscule, bien sûr.
pho.louvet@dbmail.com. Sur dbmail.com.
DB.
Et puis, de toute façon, si vous voulez vraiment avoir des nouvelles et avoir ce spectacle, vous tapez simplement le nom de Philippe Louvet dans Google et vous allez trouver des informations. Hein. On a tous des informations.
Oui.
Et avec Google, mon bon ami, on trouve plein de choses. Hein. Il suffit de... Oui. Tu t'es jamais amusé à taper ton propre nom? C'est extraordinaire ce qu'ils savent comme chose.
Il y en a énormément, des Philippe
Louvet. Ah oui, il y a des Philippe Louvet. Alors il faudra préciser... Philippe Louvet, conteur.
Conteur.
Voilà,
oui,
déjà on aura les informations de Philippe Louvet, conteur. Évidemment, si on tombe sur un Philippe Louvet, médecin ou gynécologue, ce ne sera pas la bonne chose.
C'est différent. Quoi qu'il peut y avoir des médecins conteurs.
Oui, et qu'en effet, le conte a des particularités de médecine. Ça soigne beaucoup de choses.
Ah, absolument. Aussi, oui.
Voilà. Eh bien, Philippe, on va se quitter. Et moi, je ne peux que te dire une seule et unique chose. Bonne continuation, Philippe.
Merci, Michel.
Et à bientôt, peut-être.
Ah ben, sûrement, oui.
bien, pour finir cette émission, on va dire avec la thématique de l'Irlande, je vous propose d'écouter un conte que j'ai enregistré avec un ami musicien qui s'appelle Michel Prigent. Et pour lui, j'ai transformé ce conte, qui est un conte normalement islandais, je l'ai transformé en conte irlandais, parce que Michel, lui, c'est aussi un très bon musicien et il excelle dans la musique irlandaise. Alors voici donc La femme phoque. La vérité, quand elle a beaucoup vieilli, prend souvent les couleurs de la légende. Et le mensonge tout frais du jour sera peut-être la vérité de demain. Aussi, je vous le demande expressément, n'allez pas chercher ce qu'il y a de vrai ou de faux dans mes histoires. Essayez seulement de voir ce que vous entendez. Il y a longtemps, bien longtemps, là-bas, en Irlande, les hommes vivaient heureux, au bord de la mer. Et puis un jour, on ne saura jamais pourquoi, ils se sont tous précipités vers la mer, comme s'ils voulaient s'y noyer. Mais la mer était bonne à cette époque. Ce n'est que plus tard qu'elle deviendra mauvaise, quand les hommes commenceront à déverser tous leurs déchets, quand les bateaux vomiront leur pétrole, là, elle deviendra mauvaise. Mais à cette époque, elle était encore bonne. Et quand elle a vu tous ces hommes qui allaient se noyer, elle les a transformés en phoques. Une colonie de phoques, pas tout à fait comme les autres. En effet, cette colonie-là avait la particularité de retrouver l'apparence humaine une fois par an, la nuit de Noël. Alors la nuit de Noël, c'était un spectacle merveilleux de voir tous ces phoques qui sortaient de la mer, qui s'avançaient en rampant vers une grotte d'où s'échappait de la musique et de la lumière. Ils se sont mis à danser toute la nuit à danser. Ils n'avaient qu'une nuit par an. Ils n'allaient pas la passer à dormir. Avant de rentrer, chaque phoque avait retiré sa peau de phoque et l'avait accrochée à un rocher pour retrouver cette apparence humaine. Et il y a un pêcheur qui rentrait tardivement de la pêche. Il a vu toutes les peaux de phoque accrochées. Il a vu la lumière, il a entendu la musique, il s'est rapproché. Et il n'a pas pu s'empêcher. Il a regardé à droite, à gauche, et il a pris une peau et il est rentré chez lui. Arrivé chez lui, il a mis la peau dans un grand coffre qu'il a fermé à clé avec une grosse clé. Il a mis la clé dans sa poche et il est allé se coucher. Le lendemain, il est retourné sur la plage. Ah ben là, tout était calme. Il n'y avait plus personne. Ou plutôt si, là-bas, sur un rocher, il y avait une femme, nue, et qui pleurait. Alors il s'est approché, il a vu qu'elle était très belle. Elle lui a dit qu'elle avait perdu sa peau et que désormais, elle ne pouvait plus retourner sous la mer. Elle lui a dit aussi qu'elle avait déjà 3 enfants sous la mer.
Alors l'homme lui a proposé de venir jusqu'à chez lui, où il lui offrirait de belles robes. Elle a suivi. Elle n'avait pas grand-chose d'autre à faire. Arrivée dans la maison, ah ben les robes étaient tellement belles qu'elle a retrouvé le sourire. Et pour remercier l'homme, elle l'a embrassé. Et puis, elle est restée dans la maison. Le temps a passé, ils ont fini par se fiancer. Beaucoup plus tard, ils se sont mariés et ils ont eu des enfants, 3 enfants. Mais souvent, le soir, au crépuscule, on voyait la femme sortir de la maison, s'approcher de la falaise et là, face à l'océan, prononcer cette phrase. Cette phrase que j'entends encore, une phrase qui faisait comme ça. 3 enfants sous la mer, 3 enfants sur la terre. 3 enfants
beneath the sea,
sous la mer.
3 children.
3 enfants
on the earth,
sur la terre. 3 enfants sous la mer. 3 enfants sur la terre. Un soir, le pêcheur a été appelé en urgence par un autre pêcheur qui venait de s'échouer. Il est parti comme ça, précipitamment, en oubliant la clé sur la table. La femme a vu la clé. Elle a ouvert le coffre. Elle a retrouvé sa peau. Alors elle a endossé sa peau. Elle est sortie de la maison. Elle s'est dirigée vers la plage. Elle est rentrée dans la mer. Et quand elle avait encore de l'eau à peu près jusqu'à la taille, elle a encore prononcé cette phrase. 3 enfants sous la mer, 3 enfants sur la terre, 3 enfants sous la mer, 3 enfants sur la terre. Et elle a disparu dans l'océan. Le pêcheur, quand il est rentré, il a vu les enfants qui pleuraient. Il a vu le coffre ouvert, il a compris tout de suite. Il a compris qu'elle ne reviendrait jamais. Il en a été très affecté. Mais c'était un pêcheur, n'est-ce pas? Et pour gagner sa vie, il fallait qu'il reprenne la mer. Alors il a mis son bateau sur la mer et il s'est dirigé droit vers l'océan. C'était un homme droit qui ne regardait jamais derrière lui, toujours droit devant, un homme fier. C'est dommage. Parce que s'il avait regardé derrière, il aurait vu qu'il y avait un phoque qui le suivait. Un phoque qui avait, comme qui dirait, des larmes aux yeux. 3 enfants sous la mer, 3 enfants sur la terre.
Ça va faire des histoires.
Ça va faire des histoires.